VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gabi Dorsil et Tatiana Mosso, bonsoir et bienvenue à l'édition du 4 août 2015. Au sommaire ce soir.
Prémices de guerre au Burundi selon l'organisation internationale Crisis Group et rencontre à Addis Abeba des membres de l'opposition. Le point complet dans ce journal.
Gabon, l'influent directeur de cabinet de Bongo dans le collimateur de la justice française. Manifestation de soutien devant l'ambassade de France ce mardi à Libreville.
Côte d'Ivoire, condamnation à 20 ans de prison du commandant Anselme Sekayapo, ex-camp de l'ancienne première dame Simone Gbagbo.
Retour ce soir sur le drame des migrants en Méditerranée.
Le problème est beaucoup pire cette année que l'année dernière. Les problèmes dans le monde sont pires. Les problèmes en Syrie, en Irak, les problèmes en Érythrée, les problèmes partout.
On écoutera le porte-parole de l'Office international pour les migrations.
Et nous reviendrons ce soir sur le drame des migrants. Vous l'avez déjà dit, chérubin. Ici aux États-Unis, des milliers de personnes sont déplacées par les feux de forêt en Californie. Plus de 9000 sapeurs-pompiers tentent de contenir au moins 21 brasiers.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Sekayapo, aide de camp de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, a été condamné aujourd'hui par un tribunal militaire d'Abidjan à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale 2010-2011. Toujours à propos de cette crise ivoirienne, l'impartialité de la CPI est remise en cause. Human Rights Watch dénonce dans un rapport l'absence de poursuite par la Cour pénale internationale contre des pro-Ouattara, les précisions d'Eddie Sango.
Human Rights Watch estime que la CPI aurait pu mieux faire son travail en Côte d'Ivoire. Dans ses rapports intitulés « Pour que la justice compte », enseignement tiré du travail de la CPI en Côte d'Ivoire, l'organisation internationale qualifie des maladresses la décision du bureau du procureur de limiter ses enquêtes initiales aux crimes commis par un seul camp lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette décision a affaibli l'impact potentiel de la Cour, selon Human Rights Watch. Fatou Bensouda a répété à maintes reprises que son bureau enquêterait également sur les crimes commis par les camps Ouattara, mais ne l'a pas encore fait en raison des moyens limités, assure-t-elle. Laurent Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blégoudé, sont écroués à la haie où leur procès devant la CPI doit s'ouvrir le 10 novembre. L'épouse de Laurent Gbagbo, Simone, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, mais Abidjan refuse son transfèrement à la haie.
Au Burundi, une responsable du parti présidentiel dans la commune de Kanyusha, Kom Harerimana, a été tuée ce matin par les inconnus armés. Un militaire a aussi échappé à un assassinat à proximité du cercle nautique de Bujumbura. Par ailleurs, Pierre Claver Mbonimpa est encore à l'hôpital polyclinique central de Bujumbura, où il est soigné suite à la tentative d'assassinat d'hier. Selon les médecins, sa vie n'est plus en danger.
En Afrique du Sud, fin des poursuites judiciaires contre Julius Malema. Le leader des combattants pour la liberté économique n'est plus poursuivi par la justice de son pays. Je vous rappelle qu'il pesait contre lui des charges de corruption. Son procès qui a été reporté à plusieurs reprises est donc finalement considéré comme nul. Les explications de Rachid Bouda.
Le juge Billy Mottel a annoncé la fermeture du dossier permettant à Julius Malema de retrouver sa liberté. D'après le magistrat, les accusés attendent d'être jugés depuis 2012. Après avoir été reporté de plusieurs mois en septembre, le procès avait été de nouveau ajourné lundi à cause de l'hospitalisation d'un de ses co-accusés. Le parquet a souhaité que les audiences puissent se tenir sans ce co-accusé ou qu'elles soient repoussées une fois de plus, mais ces deux alternatives ont été refusées par le juge. Âgé de 34 ans, Julius Malema était accusé depuis 3 ans d'enrichissement illicite en rapport avec un appel d'offres de 3,7 millions d'euros pour l'entretien des routes de la province du Limpopo dans le nord de l'Afrique du Sud. Il est présentement libre, mais l'État sud-africain peut décider de le poursuivre à nouveau à travers une nouvelle procédure.
Autre point de l'actualité en République centrafricaine, le calme est revenu dans le 3e arrondissement de Bangui au lendemain des violences meurtrières de ces dernières 48 heures. Des violences qui ont fait au moins 6 morts, dont un casque bleu de la MINUSCA. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Après l'offensive menée lundi matin par les forces de la MINUSCA dans le secteur de Pika 5, le calme semble revenu dans les zones secouées par les heures de dimanche à lundi. La circulation a repris dans l'après-midi sur les principales artères du 3e arrondissement. Des commerces ont rouvert leurs portes et certains habitants déplacés ont commencé à regagner leurs habitations. La force onusienne multiplie ses patrouilles et accroît sa présence dans le secteur. Nous contrôlons la situation et nous sommes en train de prendre contact avec les populations pour leur expliquer l'intérêt de notre opération, a indiqué Amadoune Touré, porte-parole de la MINUSCA. Dimanche, une patrouille de l'unité de police constituée de la MINUSCA a été prise à partie par une bande armée dans le quartier PK5 alors qu'elle tentait d'arrêter sur mandat du procureur un homme recherché par la justice pour plusieurs crimes. Bilan, au moins 5 personnes, dont un policier camerounais de la MINUSCA tué, plusieurs blessés et 3 suspects arrêtés. La force onusienne a annoncé que l'opération se poursuivra jusqu'à ce que la sécurité de la population soit garantie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Triste bilan en Europe, le cap des 2000 migrants morts cette année en mer Méditerranée a été franchi ce week-end. Malgré le danger, nombreux sont ceux qui tentent toujours de gagner l'Europe par la mer avec l'aide de passeurs. Léonard Doyle est le porte-parole de l'Office international pour les migrations. Il a été joint par Nicolas Pinault à Genève.
C'est beaucoup plus jusqu'à ce moment que l'année dernière. L'année dernière, c'était 1600. Tous les gens qui fuient le Moyen-Orient essaient de traverser la Méditerranée. Ils sont dans les mains des passeurs. Ils sont dans les tout petits bateaux. Le problème est beaucoup pire cette année que l'année dernière. Les problèmes dans le monde sont pires. Les problèmes en Syrie, en Irak, les problèmes en Érythrée, les problèmes partout. Soudan, il y a des gens qui viennent de Soudan qui disent qu'ils sont là à travers des problèmes de droits de l'homme.
Les autorités mauritaniennes ont remis en liberté ce mardi Senda Ould Boumana, ancien cadre de l'organisation djihadiste malienne Ansartine, qui s'était rendu en mai 2013 aux forces mauritaniennes et était depuis détenu au secret, selon une source de sécurité mauritanienne citée par l'agence France Presse. Ould Boumana, qui affirme être de nationalité mauritanienne, a été le porte-parole d'Ansartine, un des groupes liés à Al-Qaïda ayant contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois, avant d'en être chassé et en partie dispersé à partir de janvier 2013, on se le rappelle, par une opération militaire internationale.
Et au Mali, justement, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui devait se rendre en Égypte, a annulé son déplacement pour des raisons de sécurité intérieure, après les 2 attaques djihadistes qui ont fait 13 morts en 3 jours parmi les militaires maliens. Selon son entourage, il devait assister jeudi à l'inauguration de la seconde voie du canal de Suez, qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée, cérémonie à laquelle il avait été invité par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
11 personnes, dont 2 bébés, ont péri dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Kanchongu, dans le nord de la Guinée-Bissau. L'accident est survenu hier dans cette ville située à 120 km de Bissau, alors que plusieurs personnes, dont de nombreux enfants, se trouvaient dans le bâtiment construit sur 4 niveaux. Selon l'habitant, les secours ont extrait des décombres 4 corps hier, puis 7 aujourd'hui, a affirmé la source hospitalière reprise par l'AFP.
Une nouvelle un peu plus légère cette fois. La République de Djibouti a ressuscité sa compagnie aérienne, l'une des plus anciennes du continent africain, et en a confié la gestion à un chef d'entreprise pas comme les autres, le chanteur du groupe hard rock Iron Maiden, Bruce Dickinson. Air Djibouti a effectué lundi son premier vol depuis 2002, marquant la renaissance de cette entreprise d'État qui devrait redémarrer le transport de passagers au mois de novembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, les forces luttant contre les rebelles chiites houthis ont repris une importante base militaire située à environ 60 km au nord d'Aden. Cette victoire devrait permettre aux partisans du président Abd Rabbu Mansour Hadi, contraint à l'exil en Arabie Saoudite au mois de mars, de sécuriser cette ville portuaire et élargir leur territoire. La base aérienne d'Al-Anad est tombée aux mains des loyalistes après plusieurs jours de combat et grâce à l'appui aérien de la coalition régionale dirigée par les Saoudiens. Selon des sources pro-gouvernementales, 70 rebelles chiites et 24 combattants sunnites sont morts dans ces affrontements.
Alors que la Turquie poursuit sa campagne militaire contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak, l'Union européenne et les États-Unis ont appelé Ankara mardi à la retenue. La Turquie a le droit de se défendre, disent-ils, tout en préconisant une réponse proportionnelle dans les frappes aériennes menées contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan.
Les feux de forêt qui font rage dans le nord de la Californie ont doublé d'intensité et menacent maintenant des habitations et des commerces, tout en s'étendant à d'autres États du nord-ouest. Idrissa Seloudia.
Le sinistre couvre maintenant plus de 260 km², malgré les efforts des milliers de pompiers dans cet état frappé par la sécheresse. Il a atteint l'autre côté d'une autoroute qui devait constituer une barrière et s'est étendu plus loin encore, bien que le climat se soit rafraîchi. et on dit l'humidité plus grande maintenant. Aucune autre maison n'a été brûlée aujourd'hui après les 24 déjà détruites, en même temps que 26 dépendances dans le secteur de Lower Lake, situé au nord de San Francisco. Les autorités ont demandé à 13 000 personnes d'évacuer 5 500 maisons. Une bonne partie de ces feux de brousse a été causée par la foudre et a été propagée par une combinaison d'arbres secs et de vents violents. Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré l'état d'urgence et ordonné à sa garde nationale d'aider à faire face aux sinistres et à ses dégâts.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Michel Joseph.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé à Grand Laou, à l'ouest d'Abidjan, l'augmentation du capital du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui passe de 6 à 8 milliards de francs CFA. Ce fonds remboursable a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour aider à l'autonomisation des femmes et contribuer à la lutte contre la pauvreté, rappelle l'agence APA. La Banque africaine de développement a décidé d'accorder une ligne de crédit de 1,64 milliard de francs CFA à Fidélis Finance, ex-Burkina Faso, en vue de renforcer ses capacités d'intervention en matière de financement des petites et moyennes entreprises, a appris l'agence APA auprès des responsables de la société. Avec le présent concours, nous envisageons de financer au moins une cinquantaine de projets, a indiqué le directeur général de Fidélis Finance, Abdoulaye Sori. La République de Djibouti a relancé sa compagnie aérienne, dont la gestion a été confiée au chanteur du légendaire groupe de hard rock Iron Maiden, Bruce Dickinson, a appris mardi l'AFP auprès des autorités djiboutiennes. Le Kenya va construire un pont ferroviaire au-dessus de l'emblématique parc national de Nairobi pour y faire passer la nouvelle ligne de chemin de fer entre la capitale et Mombasa, principal port du pays. Une nouvelle accueillie favorablement mardi par les protecteurs de l'environnement.
Merci Michel Joseph pour la Minute Éco.
Après l'économie, les sports, salut Nicolas Pineau.
Bonsoir chérubin.
Football, rubrique transfert.
Oui, l'attaquant ivoirien de Saint-Etienne, Max-Alain Gradel, s'est engagé pour 4 ans avec le club anglais de Bournemouth. L'indemnité du transfert qui a été long à se finaliser avec Saint-Etienne n'a pas été révélée. Elle pourrait s'élever avec ou sans bonus à environ 7 millions d'euros. Après 4 saisons chez les Verts, Gradel, auteur de 17 buts en 31 matchs en Ligue 1, revient donc en Angleterre où il découvrira la Première Ligue. Et puis on parle également de l'attaquant international congolais Fodé Doré qui a signé pour 2 ans au SCO d'Angers, club promu en première division française. Lorient s'est attaché les services de l'attaquant international camerounais Benjamin Moukandjo. Un bail de 2 ans attend le Lion indomptable, auteur de 8 buts la saison passée en Ligue 1. Montant de l'opération, 1,5 million d'euros.
Coup d'œil sur le championnat égyptien, le Zamalek titré.
Le club du Caire, déjà sacré champion, s'est contenté d'un match nul 0-0 hier face à Wadi Degla pour le dernier match en retard de la 24e journée. Zamalek a remporté son premier titre de champion depuis 2004, le 12e de son histoire, et succède au palmarès à son grand rival, Al Ahly.
Sur le continent américain, la Copa Libertadores de América, Nicolas.
Les Mexicains de Monterrey affronteront en finale retour les Argentins de River Plate. Au plus haut niveau et donné favori pour remporter la plus prestigieuse compétition des clubs d'Amérique latine. Au match aller à Monterrey, les Mexicains ont concédé à domicile le match nul 0-0.
Championnat du monde de natation en Russie, les dernières nouvelles.
James Guy a remporté la finale du 200 mètres des mondiaux de Kazan en 1 minute 45 secondes 14 centièmes après avoir pris l'argent sur 400 mètres. Une course pas très rapide mais très serrée puisque le Britannique a devancé le Chinois Sung Yang de 6 centièmes et l'Allemand Paul Biedermann de 24 centièmes. Quant à l'Américain Ryan Lochte, en tête au dernier virage grâce à sa fameuse coulée sur le dos, il termine seulement 4e à 69 millièmes.
Et la Fédération internationale d'athlétisme dément les allégations de dopage.
Suite aux accusations de la chaîne de télévision allemande ARD et du quotidien britannique Sunday Times ce week-end sur un supposé dopage de grande ampleur dans l'athlétisme, l'IAAF parle de sensationnalisme. La suspicion seule n'est pas une preuve de dopage, a ajouté la Fédération au sujet des échantillons sanguins de 800 athlètes présentant des valeurs suspectes ou hautement suspectes. Selon ces médias, sur les 146 médaillés mondiaux ou olympiques entre 2001 et 2012, du 800 mètres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Robin Dorsil et Tatiana Mosso, en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour.
Au Burundi, l'opposition a formé un conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration de l'état de droit, après une rencontre de 3 jours à Addis Abeba la semaine dernière. Ce conseil est dirigé par l'opposant historique Léonard Nyongoma, en exil en France. L'ancien chef de l'état burundais Sylvestre Tibantuganya a participé aux assises d'Addis Abeba.
L'opposition burundaise a un devoir aujourd'hui à être bien préparée à toute situation pouvoir arriver pour y faire face efficacement pour l'intérêt général des Burundais. Et aujourd'hui, la première question à l'ordre du jour est comment s'organiser pour influer politiquement, diplomatiquement, afin que soient relancées les négociations que le président Yoweri Museveni avait fait entamer il y a à peu près un mois et qui doivent être des négociations qui préparent le Burundi à l'organisation de véritables élections pluralistes, inclusives, libres, transparentes, justes, équitables, donc crédibles. Des élections qui soient capables d'accoucher des institutions dans lesquelles tous les Burundais se reconnaissent, des institutions efficaces pour faire face à la crise actuelle, mais également aux autres ambitions que les Burundais doivent avoir, et des élections qui accouchent des institutions et qui doivent également inspirer confiance et qui doivent ensuite obéir aux Burundais qui constituent le souverain suprême.
Le président Pierre Nkurunziza a choisi le passage en force. Est-ce que vous pensez qu'il va l'accepter? Est-ce que les rapports de force sur le terrain sont-ils équilibrés?
L'expérience nous montre que partout où des situations de crise telles que celles qui nous vivons au Burundi sont produites, la meilleure voie, la plus efficace pour les résoudre, ce n'est pas de faire un forcing quelconque, mais d'accepter de s'asseoir sur une table de négociation avec ses partenaires. Et le président Nkurunziza, comme d'autres, sont dans le cercle du pouvoir autour de lui, doivent le comprendre, il n'y a pas d'autre voie, à moins qu'ils aient opté pour la gestion du Burundi dans des voies violentes, ce qui veut dire dans des voies anticonstitutionnelles. À ce moment-là, ils emporteraient la responsabilité.
Il y a un regain de violence et des assassinats ciblés. Est-ce que le pays va dans le chaos?
Nous ne pouvons pas accepter que le président aille dans le chaos. Nous devons absolument accepter aujourd'hui que le premier devoir que nous avons est de tout mettre justement en œuvre pour que le Burundi échappe définitivement à ce chaos.
C'était le président Tibantuganya, joint à Bujumbura par Eric Manirakiza.
On voit se mettre en place tous les ingrédients d'un nouveau conflit. Je fais évidemment référence à l'assassinat du général Adolphe Nshirimana dimanche et puis à la tentative d'assassinat de Pierre Claver qui a suivi. Il va de soi que la violence a fait un bond au Burundi avec ces deux attentats puisque on est passé des manifestations populaires contre le troisième mandat à maintenant des assassinats ciblés. Cette évolution est annonciatrice de plus grande violence au Burundi. Et on note également que depuis la réélection du président Nkurunziza, il n'y a plus de médiation internationale pour organiser un dialogue politique à Bujumbura. Donc la combinaison à la fois de l'assassinat ciblé et de l'absence de dialogue nous conduit à penser qu'on est déjà dans une logique conflictuelle au Burundi et que la réélection du président Nkurunziza a en fait radicalisé les oppositions, a approfondi la crise burundaise au lieu de la résoudre.
Avec les débouchages de l'opposant Agathon Rwasa, l'opposant historique, ne pensez-vous pas qu'il y a une possibilité que les Burundais aillent plutôt vers un gouvernement d'union nationale?
Dans l'opposition, sont d'accord pour un gouvernement d'union nationale dans la mesure où ce gouvernement serait une forme de gouvernement transitoire pour organiser un nouveau scrutin, parce qu'ils ne reconnaissent pas le scrutin passé. Je ne sais pas si l'idée, par contre, de faire un gouvernement d'union nationale pour les 5 ans à venir.
Le président Pierre Nkurunziza, qui vient d'être réélu, a lancé dimanche un appel au calme et a demandé au Burundi de rester uni et d'éviter les pièges de la vengeance. Est-ce que vous ne pensez pas que les Burundais pourront répondre à cet appel et comment voyez-vous vous-même son gouvernement?
Je ne pense pas que son appel sera entendu par tout le monde. C'est un régime qui a l'habitude de ne pas faire ce qu'il dit.
On écoutait l'expert de l'International Crisis Group pour l'Afrique centrale, Thierry Vircoulon, joint par Eddy Issango.
La brève interpellation en France de l'influent et controversé directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo, Mexan Akrombessi, soupçonné d'avoir perçu illégalement de l'argent d'une entreprise française, a suscité l'incompréhension du pouvoir à Libreville. Une manifestation pro-gouvernementale encadrée par les forces de l'ordre s'est tenue mardi matin devant l'ambassade de France. Jean Rovis Dabani, notre correspondant, était sur place.
Ce n'est pas la première fois que les relations entre Libreville et Paris s'étendent. Cette fois-ci, la tension est montée après la brève interpellation hier en France de Mexan Akrombessi, directeur de cabinet du président Ali Bongo. La justice française cherche à savoir si M. Akrombessi aurait perçu de l'argent de la société Marc, l'entreprise française spécialisée dans la fabrication d'uniformes militaires, en échange de l'attribution des marchés très juteux. Son interpellation a fait réagir la présidence gabonaise qui s'est émue du comportement de l'ancienne puissance coloniale. Mardi matin, quelques 200 personnes ont manifesté pacifiquement devant l'ambassade de France à Libreville avant de transmettre aux autorités de l'ambassade un manifeste signé des proches d'Ali Bongo. Porte-parole du mouvement, Erwin Dongobian, est catégorique. Monsieur Akrombessi est victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par certains décideurs français.
Nous sommes venus manifester à l'ambassade de France parce que nous constatons avec récurrence que la République française ne sait pas que le Gabon est un État indépendant et souverain et que ce qu'ils ont fait hier, c'est une récurrence des événements. Parce que hier, ils ont arrêté l'avion du président de la République, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet et nous nous posons la question à qui le tour. Donc c'est pourquoi nous sommes venus remettre un message à monsieur l'ambassadeur de France pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes.
Si la manifestation anti-française organisée en riposte à cette nouvelle provocation n'a pas mobilisé grand monde, elle n'en demeure pas moins révélatrice de l'évolution des relations entre la France et le Gabon. Critiquée par l'opposition gabonaise et la société civile pour être la cheville ouvrière du système de gouvernance mis en place par Ali Bongo à partir de 2009, Mexan Akrombessi est aujourd'hui le véritable gardien du palais de bord des mers. Marc Onan est l'un des fondateurs du mouvement « Ça suffit comme ça ».
Et je pense sincèrement que ce dossier n'est que un petit dossier qui va ouvrir d'autres dossiers que nous soupçonnons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau international, que la justice fasse son travail pour que ceux qui pensent, les prédateurs des pays, arrêtent de piller pour se réfugier en Occident. L'Occident ne devrait pas être aujourd'hui une sorte de refuge pour les brigands, pour les criminels financiers à travers le monde. Et c'est un exemple pour nous. Je crois que c'est un signal très fort. Même si la garde à vue n'a pas excédé 24 heures, même si c'était une seconde de garde à vue, pour nous c'est un signal fort qui montre que personne ne peut plus demeurer impuni dans les actes de criminalité financière.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo qui a succédé à son père en 2009, les relations entre les deux pays sont restées houleuses. Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi, Washington Forum braque les projecteurs sur Yali 2, le second sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Pour le président Obama, la jeunesse est le moteur du progrès. Le programme Yali peut-il aider les jeunes leaders africains à faire une réelle différence sur le continent? Quelles doivent être leurs priorités? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le président Barack Obama a donné le coup d'envoi lundi ici à Washington à cette seconde édition du sommet Yali consacré aux jeunes leaders africains. Pendant plus d'une heure, Barack Obama a échangé avec les 500 jeunes invités. Il a évoqué plusieurs sujets dont l'entrepreneuriat en Afrique, la discrimination faite aux femmes et à certaines minorités, tout en se disant optimiste sur l'avenir du continent. Alors, Bagassi Koura, vous êtes sur place. Parlons maintenant de la seconde journée au programme.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. Cette seconde journée, le moment le plus attendu, c'est l'ouverture cet après-midi de cette foire hein, qui va réunir des représentants de plus d'une centaine d'organisations du secteur privé, de la société civile, et avec les 500 participants, les jeunes Africains. C'est du networking, il faut le dire. L'idée, c'est de permettre de partager les expériences, les opportunités, mais surtout de nouer des partenariats. Et comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est une opportunité de plus pour ces jeunes leaders africains qui ont des projets assez ambitieux dans leur domaine respectif.
Alors, comment les participants apprécient-ils ce sommet jusqu'ici?
Alors, tous ceux que nous avons rencontrés jusque-là se disent assez satisfaits hein, des débats, des rencontres et surtout des opportunités qui s'offrent à eux. Il faut dire, hein, ils ont bénéficié de formations dans certaines des meilleures universités de ce pays. Et hier, ils ont eu la chance, comme vous le disiez, d'échanger directement avec le président américain pendant plus d'une heure. Et tout à l'heure, certains participants me disaient que le fait de serrer la main du président Barack Obama est en soi un événement inoubliable. Il faut dire aussi, chez Robert, qu'en plus des sessions de travail avec des experts et des universitaires, ils ont aussi droit à des discussions en petits groupes avec des chefs d'entreprise, des responsables gouvernementaux, des spécialistes des questions de développement international et des organisations non gouvernementales. Et pour ces participants, ils ne pouvaient rêver mieux. Et pour terminer, sûrement, il faut rappeler que ce sommet présidentiel fait suite à 6 semaines d'études universitaires et de formation en leadership que ces 500 boursiers ont reçus dans 20 établissements d'enseignement supérieur à travers les États-Unis dans le cadre de ce Mandela Washington Fellowship.
Mais je ne vous laisserai pas partir, Bagassi Koura, sans revenir un peu sur les échanges entre Barack Obama et les jeunes leaders africains d'hier. Pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi cette première journée, qu'est-ce qu'on peut rappeler?
Alors, ce que les participants ont surtout retenu et qui les a marqués des propos du président Barack Obama, c'est son insistance sur les questions de discrimination contre les femmes, où il a notamment martelé qu'il faut que cela cesse. Ce n'est pas parce qu'on domine quelqu'un, qu'on piétine quelqu'un, que cela montre qu'on est fort. Et Barack Obama est revenu sur la question des albinos. Hein, vous savez, certains d'entre eux sont tués dans certains pays comme la Tanzanie. Barack Obama est revenu là-dessus, disant que c'est vrai qu'il faut promouvoir la tradition, mais il dit que ces genres de traditions doivent cesser parce que ça ne fait pas partie des pratiques qui doivent être encouragées. Et Barack Obama a aussi, comme je le disais, parlé de la question des femmes, disant que pour savoir la santé économique d'un pays, il faut juste vous regarder comment les femmes de ce pays-là sont traitées. Et tous les participants aujourd'hui avec qui nous avons échangé sont revenus sur ces points hein, qu'ils n'oublient pas parce qu'ils disent que certains de leurs dirigeants n'ont pas le courage d'évoquer certaines de ces questions-là, ces questions brûlantes sur le continent.
Le sommet prend fin quand?
Le sommet prend fin demain et donc, comme je le disais, les participants ont l'opportunité ce soir donc de discuter avec plus d'une centaine d'organisations hein, pour voir les opportunités dans leurs domaines respectifs et voir dans quelle mesure ils peuvent nouer des opportunités. Et parce que vous savez, après ces formations, ils vont passer des stages ici et ensuite ils vont retourner dans leur pays. Et il faudra que d'ici là, ils puissent trouver, multiplier les opportunités avant de retourner dans leur pays respectif.
Bagassi Koura sur place au sommet Yali pour VOA Afrique. Merci Bagassi.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot. Micha était à la console. Présentation Chérubin Gabi Dorsil.
Et Tatiana Mosso. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Vous écoutez le Monde aujourd'hui. diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.